cours M4 MA004, séance 10 sur la démocratisation culturelle, enregistrement numéro 2. J'arrivais à ma troisième partie, placée sous le signe d'un retour aux fondamentaux, point d'interrogation, retour peut-être à l'impératif de la démocratisation culturelle après les années où la démocratie culturelle avait semblé prendre le pas sur la démocratisation. On est revenu dès 1993, donc dès la fin des années Lang, quand Jacques Toubon succède à Jack Lang à la tête du ministère de la Culture, à une formulation quasi identique au décret fondateur du ministère des Affaires culturelles en 1959, comme si finalement les années 70-80 n'avaient été qu'une parenthèse. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les versions successives de ce décret qui assigne donc un certain nombre de, enfin, qui précise les missions du ministère de la Culture, donc toutes les versions successives jusqu'à la dernière en date qui date du 24 mai 2017, eh bien reprennent cette formulation du décret de 1959. Hein. Il s'agit avant tout de faire connaître les chefs-d'œuvre de la France, etc., etc. La démocratisation figure parmi les priorités affichées par les gouvernements successifs depuis les années 90. Le ministère, le ministère de la Culture étant, Catherine Trottmann étant celle qui est au ministère, parmi les ministres qui se succèdent donc depuis les années 90 au ministère de la Culture, étant celle qui a manifesté probablement avec le plus d'éclat, mais aussi le plus de difficultés, si l'on en juge la réaction des milieux culturels, la constance de cette ambition de la démocratisation culturelle. Mais par la suite, hein, tous les ministres qui se succèdent encore une fois à un rythme assez rapide, rue de Valois, n'ont cessé de réitérer cette impérative à démocratisation culturelle. Christine Albanel, Frédéric Mitterrand, qui avait souhaité une culture pour tous et pour chacun, Aurélie Filippetti, qui déclarait en 2012, que le dessein politique du ministère de la Culture consiste et consistera toujours à œuvrer pour que la culture, pour que les arts soient accessibles au plus grand nombre, pour que tous les Français aient accès à ces merveilles de l'art et de la culture. Tous ces responsables, finalement, ne cessent de rappeler, de réitérer cet impératif de la démocratisation culturelle, qui se traduit parfois par des politiques concrètes intéressantes, estimables. Je pense notamment à l'implantation en région de grands établissements parisiens, le Louvre-Lens, par exemple, ou encore le Centre Pompidou Mobile, qui était une expérience qui a existé entre 2012 et 2013, consistant à faire circuler des œuvres ou leur reproduction partout en France pour lutter contre les inégalités géographiques, territoriales. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que dans ces années 90-2000, comme d'une certaine façon aussi pendant l'essentiel de l'histoire de la politique culturelle française, la démocratisation a été le fil directeur, parfois explicite, parfois implicite, de cette politique culturelle, la justification première et dernière de l'effort public en matière culturelle, le critère aussi ultime de réussite ou d'échec de la politique en ce domaine. L'échec présumé de cette démocratisation, de cette ambition de démocratisation culturelle est depuis quasiment l'origine du ministère, au cœur des débats qui concerne le bilan, l'action et l'avenir du ministère de la Culture. La démocratisation demeure un impératif, mais à titre de vœux pieux, voire de mauvaise conscience des politiques culturelles françaises. En réalité, comme l'a souligné Olivier Denat, on est depuis la fin des années Lang dans un entre-deux, entre l'affirmation de l'égale dignité des cultures, le respect de la diversité d'une part, et la persistance de l'affirmation d'une hiérarchie des valeurs et des cultures, l'idée qu'il existe des contenus, des pratiques, voire des genres ou des formes qui sont préférables à d'autres, idée qui trouve sa traduction directe, concrète, dans les choix budgétaires. Alors, Donna écrivait en 1994, donc dans ce fameux livre Les Français face à la culture de l'exclusion à l'éclectisme, le bilan des 30 dernières années est cruel à bien des égards. Il appelle des révisions déchirantes car il met en lumière l'éclatement du modèle de l'homme cultivé et le manque d'efficacité des stratégies imaginées pour assurer sa diffusion, ni les efforts menés en faveur de l'offre culturelle, ni l'élévation du niveau de diplôme et du pouvoir d'achat, ni le développement des médias électroniques et des industries culturelles, n'ont accru de manière significative le cercle des amateurs éclairés de littérature, de théâtre ou d'art contemporain. Quelle révision faut-il aujourd'hui opérer pour continuer à faire vivre l'idéal d'égalité qui fondait le modèle de la démocratisation, tout en tenant compte des ruptures intervenues depuis le début des années 60? Et présentait trois solutions. Première solution, accepter de tourner la page en privilégiant sans culpabilité les objectifs de la politique culturelle relatifs à l'offre culturelle, donc finalement se détourner de l'impératif de démocratisation et viser avant tout à créer les conditions d'une vie culturelle active, donc privilégier finalement les besoins des créateurs, des artistes. Deuxième solution, totalement inverse, donner les moyens à une grande politique de démocratisation tous azimuts, par exemple en doublant le budget du ministère de la Culture et en multipliant les opérations visant à démocratiser la culture. Ces deux voies lui semblant, enfin, semblant conduire l'une et l'autre à des impasses, il prenait une troisième voie dans ce livre de 1994, où il s'agissait de renoncer à la démocratisation générale, en quelque sorte, pour définir des objectifs plus précis, en portant l'effort sur des populations prioritaires et donc en mettant en œuvre une politique finalement de discrimination positive, pas seulement à l'égard des populations issues de l'immigration récente, mais plus généralement de toutes les populations laissées en marge de l'offre culturelle. Les dernières enquêtes, hein, sur les pratiques culturelles des Français, et je pense notamment à celle de 2009, qui est la dernière en date, qui commence à dater beaucoup, hein, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Alors, cette dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français prend en compte la révolution Internet, et la révolution numérique plus généralement, montre que Internet bouleverse les pratiques culturelles, et notamment la possession position physique des supports, disques ou DVD tend à disparaître. Il montre la progression du temps passé devant les écrans, etc. Mais disons que y compris cette dernière enquête, montre une forme de routinisation des constats antérieurs selon laquelle la démocratisation, si on la définit comme l'accès à la pratique ou à des biens culturels, relevant de la culture légitime, cultivée ou consacrée, cette démocratisation n'a pas progressé. Les origines sociales des pratiquants n'ont guère évolué au cours des dernières décennies. D'où l'intérêt, sans doute, de repenser à nouveau frais toutes ces questions à travers un prisme différent. J'allais dire nouveau, il n'est pas si nouveau que ça en réalité, mais un prisme, disons, qui avait été un peu soit négligé, soit ignoré par notamment les responsables du ministère de la Culture ces dernières décennies, qui est la question des droits culturels. Et je vais maintenant y consacrer ma quatrième et dernière partie. Cette question des droits culturels, je le disais, a été longtemps négligée par les responsables et même, je dirais, aussi par les sociologues, politologues ou historiens aussi, d'ailleurs, travaillant sur ces questions des politiques culturelles. jusqu'aux années 2000. Et puis, d'une extrême rareté de travaux, il y a peu encore, on est passé, voilà, depuis une dizaine d'années, à une abondance de littérature sur ces droits culturels à la faveur du regain d'intérêt pour cette notion. Des travaux très divers, hein, qui relèvent de disciplines très différentes, juristes, sociologues, philosophes, etc. Des ouvrages qui vont des monographies aux thèses, en passant par des rapports, beaucoup d'articles très variés, qui s'intéressent aussi bien à la condition des migrants et des populations minoritaires qu'aux droits culturels des enfants, aux politiques publiques de la culture ou de la ville, qu'à la décentralisation culturelle. Il y a également un grand nombre de travaux sur le sujet dans les organisations ou produites par les organisations internationales à caractère culturel, telles que l'UNESCO, au sein également de la société civile, dans des cercles de réflexion tels que par exemple le groupe de travail de Fribourg en Suisse, ou la fondation Interart en Espagne, ou le groupe Culture et démocratie en Belgique, ou le réseau Culture 21 en France. On pourrait en citer encore d'autres, mais il y a un foisonnement d'initiatives de la société civile qui témoignent de cette actualité nouvelle et de cet intérêt nouveau pour les droits culturels. Des droits culturels dont on constate l'usage croissant comme référentiel dans les discours de politique générale, de politique culturelle et de relations culturelles internationales. C'est d'ailleurs, de manière assez significative, à ce thème des droits culturels qu'était consacré le grand colloque organisé en décembre de l'année dernière, en décembre 2019, par le ministère de la Culture pour célébrer le 60e anniversaire de sa création. Et un colloque international dont le titre, du partage des chefs-d'œuvre à la garantie des droits culturels, rupture et continuité dans la politique culturelle française, le titre donc dessine une trajectoire historique, hein, vous voyez, où l'on serait passé d'une logique de partage des chefs-d'œuvre, donc démocratisation culturelle, à la garantie des droits culturels. Ce regain d'intérêt pour les droits culturels n'est pas sans lien avec la montée en puissance du référentiel des droits humains et l'exigence qui en découle d'un recours presque systématique aux droits de l'homme pour légitimer programmes et actions, que ce soit au niveau national ou international. Les principales références étant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies de 1966, et notamment son article 15 sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle. On peut également citer parmi les grands textes normatifs souvent invoqués la Convention du Conseil de l'Europe signée à Faro, au Portugal, en 2005. Le succès des droits culturels doit également être mis en relation avec les effets de la mondialisation et des migrations qui, en homogénéisant les pratiques, produisent en même temps un besoin toujours accru d'identité et d'authenticité, notamment chez les populations minoritaires, que ce soit dans les pays d'origine ou les pays d'accueil. La question des droits culturels, donc, je le disais, est investie aussi bien par des sociologues, des politistes, des juristes, des philosophes, que par des professionnels travaillant dans les milieux culturels. Comme pour tout sujet qui émerge, la préoccupation majeure depuis quelques années est celle de sa définition, de la précision de son contenu, de sa défense parfois militante, hein, plus que véritablement opérationnel. Cela n'a rien de surprenant si on considère l'imprécision et le flou qui entourent la notion, la difficulté à clairement la définir, à en dresser un catalogue exhaustif ou consensuel, d'en préciser l'effectivité, la justiciabilité en dépit du nombre important de travaux consacrés à cet exercice. C'est que la notion de culture qui est au cœur de ce concept est elle-même, vous le savez, fort complexe, sa définition souvent périlleuse. C'est aussi que la positivité des droits culturels, qui nécessite pour leur réalisation une action parfois très onéreuse de l'État, à la différence des droits civils et politiques qui se réalisent par simple abstention de l'État, en fait un objet à la fois fortement traversé par la politique et en même temps quelque chose qui reste de l'ordre assez largement de l'idéal, du programme, de l'idéologie parfois, et moins d'une action concrète ou pragmatique. difficulté par ailleurs redoublée par le fait, on y reviendra, que les droits culturels, notamment des minorités et en particulier des migrants, semblent traduire dans certains cas une montée en puissance des communautarismes au sein des sociétés occidentales et donc génèrent un certain nombre de difficultés, soulèvent un certain nombre de questions liées justement à cette intégration ou à cette assimilation des minorités au sein des sociétés occidentales. La dispersion, en tout cas, des droits à caractère culturel à travers plusieurs instruments et les nombreux chevauchements que cela induit rend mal aisée toute tentative de dresser un catalogue des droits culturels. Une chercheuse suédoise, Birgitta Leander, s'y était essayée dans un article intitulé Cultural Rights in International Law and Discourses, donc les droits culturels dans la loi, dans le droit international, dans le droit et les discours internationaux. Ça avait été publié en 2018. Donc Birgitta Leander, Leander, avait recensé pas moins de 50 droits culturels différents qu'elle avait répartis en 11 catégories. Le débat sur le contenu précis des droits culturels fait ainsi apparaître en filigrane celui de la diversité, de la disparité des sources, la diversité des interprétations auxquelles ces droits culturels donnent lieu, diversité qui entretient le flou et l'imprécision et l'absence de consensus autour de la définition de ce que sont ces droits culturels. Par ailleurs, se pose également la question de la spécificité des droits culturels au regard de la dimension ou de la composante culturelle d'autres droits cités dans un certain nombre de textes conventionnels à l'échelle internationale. C'est le cas notamment, par exemple, du droit à la religion, qui est ressorti par exemple des droits civils et politiques, ou encore du droit d'accès à l'information, qui est encore un droit civil, mais ce sont des droits qui ont une portée culturelle dans la mesure où l'exercice de la croyance religieuse ou l'exercice effectif de l'information ont une dimension culturelle. Et donc, c'est ce qui rend aussi complexe hein, cette question des droits culturels, on a parfois besoin de faire la différence, la distinction entre des droits culturels proprement dits et la dimension culturelle d'autres droits fondamentaux. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu ces différents points en organisant l'information en différents sous-parties. Et je vais les organiser sous forme de tension, en quelque sorte, sous forme de position entre des notions parfois proches, parfois éloignées, mais qui sont donc dans une tension dialectique ou dialogique. Alors, première tension, premier couple de notions, les droits culturels d'un côté et la démocratisation culturelle de l'autre. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 énoncent, dans leurs articles 27, pour ce qui est de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 15, pour le Pacte international, le droit à l'égal accès de tous à la culture. Et de la même façon, on l'a vu, les politiques de démocratisation culturelle mises en place en France dans les années 60, à la faveur de la création du ministère des Affaires culturelles, visait également à réduire les inégalités sociales et géographiques d'accès à la culture. De là une tentation de réduire les droits culturels à une simple politique de démocratisation culturelle. Or, selon un certain nombre de penseurs, et je pense notamment à Jean-Michel Lucas dans son livre Les droits culturels, enjeux, débats, expérimentations, qui a été publié en 2017, dans l'édition Territorial Édition. Donc Jean-Michel Lucas, ça s'écrit Lucas, souligne que même s'il existe des objectifs qui peuvent sembler communs, une marge, voire une opposition, sépare d'un côté les droits culturels, de l'autre la démocratisation culturelle. D'abord, il souligne que la politique de démocratisation culturelle, c'est précisément une politique, c'est-à-dire une vision qui se concrétise dans des objectifs et des moyens pour une durée donnée. dans un espace donné, etc. Donc ça a une dimension de politique publique concrète, alors que les droits culturels, selon lui, sont l'expression, en fait, d'une sorte de politique supranationale qui s'impose à tous les États-parties et dont la démocratisation culturelle n'est au fond qu'une simple modalité de mise en œuvre. Mais surtout, il considère que on est, avec les droits culturels, dans un ordre de valeur opposé à celui de la démocratisation. Avec les droits culturels, on est du côté de la liberté de choix, incarnée par l'idée de droit, alors que du côté de la démocratisation, on est plutôt dans, du côté de l'imposition d'une norme découlant d'une idéologie légitimiste de ce qu'est la culture. Il raille à ce propos, je le cite, l'exploit sémantique qui en appelle majestueusement à la démocratie, là où elle n'est présente nulle part dans cette politique publique, ni au départ, ni à l'arrivée, ni entre les deux. C'est assez virulent hein, quand il souligne que la démocratisation de la culture est à l'opposé de la démocratie réelle, puisque tous les dispositifs de sélection des œuvres de référence échappent au débat public, opèrent dans le silence, sont décidés par des experts spécialisés qui décident, je dirais, en leur âme et conscience ou selon leur goût et préjugés, de la valeur des pratiques ou des biens culturels. Il va plus loin en disant que vouloir que tous les êtres humains de tous les lieux et de tous les temps accèdent universellement aux quelques références culturelles de quelques spécialistes de quelques disciplines de l'imaginaire est tout bonnement indécent. Et il s'oppose clairement à la liberté pour chacun. Pardon, il oppose clairement la logique de la démocratisation à la logique des droits culturels, qui lui semble relever de la logique de la démocratie culturelle, c'est-à-dire la liberté pour chacun de choisir ses propres références culturelles sans s'en voir imposer aucune. La définition des droits culturels, par opposition à la démocratisation culturelle, serait donc d'ordre éthique, au croisement des approches anthropologiques et matérialistes de la culture. Elle viserait à permettre aux personnes d'être un peu plus libres, un peu plus dignes d'être reconnues par les autres, à égalité de droits et de dignité avec elles. C'est peu ou prou cette vision que défend le groupe de Fribourg, et notamment dans sa déclaration, la déclaration de Fribourg qui date de 2007. Donc c'est un groupe de travail, je le rappelle, qui est constitué d'experts au sein de l'Université de Fribourg, qui accueille l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Et cette déclaration de 2007, donc, qui émane de ce groupe, rassemble et explicite les droits qui sont déjà reconnus, mais de façon dispersée dans de nombreux instruments. Cette déclaration n'a pas de valeur juridique, mais elle a le mérite d'être une synthèse, qui est le fruit d'un travail de 20 ans, une synthèse de ce qu'on peut considérer comme les droits culturels, entendus, nationalement et internationalement. Elle se base sur une définition assez proche de la définition retenue par l'UNESCO de la culture, hein, notamment telle qu'elle a été formulée lors de la conférence mondiale de 1982, et elle place la dignité humaine au cœur des droits culturels et de tous les enjeux liés à la diversité culturelle. On a pu lui reprocher un certain manque d'effectivité concrète, un certain manque d'assises sur le terrain et de connexion par rapport aux réalités empiriques. De fait, les débats, les consultations qui ont mené à sa rédaction se sont davantage déroulés dans des cadres institutionnels tels que l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, l'Organisation internationale de la francophonie, plus qu'auprès, je dirais, des communautés. Des individus, des migrants, ce qui, effectivement, pose question sur, encore une fois, son caractère effectif ou concret. Selon l'un de ses promoteurs les plus actifs, Patrice Meyer-Bich, Meyer, plus loin, SCH. Les droits culturels tels que envisagés par le groupe de Fribourg, c'est en fait passer d'une approche distributive de la culture ou des biens culturels à une approche transversale sur le champ culturel par une focalisation sur les notions de liberté, de droit, de responsabilité de chacun. C'est le point de vue qu'il a notamment énoncé à ce fameux colloque de décembre 2019, hein, sur les droits culturels. Et il plaide pour que l'on remette au cœur de l'action publique, pas seulement d'ailleurs du ministère de la Culture, la question des droits culturels. Contre la séparation ou le cloisonnement sectoriel, qui est bien souvent, trop souvent, le fait des politiques culturelles, donc une fragmentation finalement du champ et des politiques publiques de la culture, il en appelle à une forme d'interfécondation des arts et des disciplines et une circulation du sens dans un domaine culturel rendu à son unité. Il fait référence clairement à la définition de la culture telle que donc, la conférence de Mexico l'a énoncée en 1982, mais il la recentre sur les sujets de droit, sur les personnes, en insistant sur alors une notion qui est à la limite entre politique et philosophique et celle de puissance culturelle. Puissance culturelle, ça renvoie à la force du désir de savoir, le goût de toucher et d'être touché par une œuvre. Il insiste également sur la notion de dignité en montrant lorsqu'on parle de droit culturel, on ouvre la voie à d'autres droits. C'est-à-dire que, en fait, le droit culturel, les droits culturels sont la condition d'autres droits qui touchent à l'ensemble donc des droits humains. C'est également ce que dit l'universitaire Guy Saez dans le papier que je vais mettre également en ligne à côté de cet enregistrement, où il souligne que mettre le droit à la culture au principe des autres droits représente une forme de rupture de paradigme. La culture étant généralement considérée comme un droit second venant après les autres, ici il s'agit au contraire de mettre le droit à la culture comme un droit premier d'où découlent les autres droits. Alors donc ça ouvre aussi à toute une réflexion sur la place de la culture, notamment dans la lutte contre la grande pauvreté, contre l'exclusion, etc. Cette notion de droit culturel n'est pas un luxe de riches en quelque sorte, mais c'est une dimension qui doit être prise en compte, y compris par les politiques donc publiques qui essayent de lutter contre la précarité. Bon, j'ai résumé à très grands traits, de manière assez maladroite, la pensée de Patrice Meyerbich, mais vous pouvez, je pense, assez facilement retrouver sur Internet un certain nombre de textes qu'il a produits en attendant la publication des actes de ce fameux colloque de 2019. En tout cas, cette question des droits culturels, qui renvoie donc plutôt à la notion de démocratie culturelle et de relativisme culturel, renvoie aussi, et ça va être le deuxième ou le troisième point dans cette quatrième partie, renvoie aussi à la notion d'identité culturelle. Est-ce que la notion de droit culturel renvoie donc à l'identité culturelle ou au droit de participer à la vie culturelle? Un mot d'abord sur la notion d'identité culturelle. C'est une notion qui vient de la psychologie sociale, qui est devenue ensuite l'étendard des collectifs, des peuples et des cultures, des régions et des nations, qui le brandissent pour se défendre une identité, une authenticité, des racines contre un processus de standardisation, d'uniformisation culturelle, qui serait le cas d'ensemble plus vaste dans lequel se diluerait, serait menacé de dilution donc les échelons locaux ou intermédiaires des groupes culturels. Ça renvoie évidemment à l'anthropologisation de la culture et au différentialisme culturel, dont notamment les travaux de Claude Lévi-Strauss se sont fait l'écho. Et donc la question, hein, pour pas m'étendre et me perdre dans ces considérations, c'est de savoir si donc la question des droits culturels est une question qui relève de l'identité culturelle ou des droits plus restreints à la libre participation à la vie culturelle. Le débat n'est pas aisé à trancher dans la mesure où les sources des droits culturels se sont diversifiées, que chaque texte conventionnel défend une certaine idée de cette notion. Pour les textes dits fondateurs, que sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ou encore le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, les droits culturels sont des droits à la libre participation à la vie culturelle de la communauté, la culture étant comprise ici dans le sens des œuvres, de la création, des manifestations artistiques conçues de façon donc légitime ou légitimiste, hein. La culture, c'est la culture des grandes œuvres, disons, des chefs-d'œuvre. Je cite l'article 27 de la Déclaration de 1948. Toute personne donc a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Et puis, j'avais également rappelé l'article 2, chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent de la production, de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Le Pacte international de 1966, dans son article 15, dispose que les États parties au présent pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent de toute production scientifique, littéraire et artistique dont il est l'auteur. Donc, droit à la participation à la vie culturelle, droit de se voir reconnaître la propriété intellectuelle de ses œuvres. Au fil du temps néanmoins et au fil des différentes rencontres internationales qui vont s'égrener tout au long des années 70, on va voir donc les Nations Unies interpréter les droits culturels de manière de plus en plus large. Plus seulement le partage des grandes œuvres, mais la participation de tous, puis plus seulement la participation de tous, mais la défense aussi de l'identité et la diversité culturelle. Les conventions les plus récentes de l'UNESCO, je pense notamment à la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui date de 2001, ou à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui date de 2005, proposent une vision des droits culturels beaucoup plus axée sur la protection de l'identité culturelle des personnes. C'est la même vision qui émerge de la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. C'est une convention qui date de 1990, qui apparaît comme l'instrument de référence en matière de consécration des droits culturels des migrants. La dite convention stipule dans son article 31 que, je cite, les États parties assure le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne les empêche pas de maintenir leurs liens culturels avec leur état d'origine. On peut noter également que la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, ça date de 1985, énonce également avec force que les étrangers, y compris les migrants, ont le droit de conserver leur langue maternelle, leur culture et leur tradition. Il paraît assez évident que ce souci de l'identité, cette quête des origines et des racines, cette valorisation de l'authenticité, sont liés à l'interdépendance croissante des économies, à l'intensification des circulations de biens, de personnes, d'idées, de capitaux, aux résultats et aux impasses aussi de la modernisation, toutes ces choses que la décennie 1980 va appeler la mondialisation culturelle. Les droits culturels, dans cette nouvelle configuration, deviennent un enjeu majeur. Ils participent pleinement de cette évolution qui veut que soit reconnue et défendue la diversité culturelle, qui est le mantra de l'UNESCO à partir des années 90, et que reprennent à leur compte la France et l'Europe dans leur combat contre la domination des industries culturelles états-uniennes. Droit des peuples, droit des cultures, droit des nations à conserver leurs traits culturels contre toute forme d'uniformisation, droit des États-nations à se doter d'instruments de protection vis-à-vis des biens et des services culturels étrangers et à promouvoir leurs propres biens et services culturels. C'est ce que proclament précisément la Déclaration et puis la Convention universelle pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, donc 2001 et 2005. L'une des grandes ambiguïtés de ce discours, de ce discours culturaliste, c'est que l'on peut fort bien, et comme le fait avec constance la France depuis les années 80, à la fois défendre une identité culturelle nationale, voire européenne, supposément menacée par le déferlement des produits des industries culturelles états-uniennes, et jusqu'à prendre la tête de cette alliance globale pour la diversité culturelle qui a conduit à cette fameuse déclaration puis convention pour la protection des expressions culturelles, de la diversité culturelle, et en même temps limiter au maximum la reconnaissance de sa diversité interne au nom d'une république une et indivisible, même si, je l'avais dit, un droit à la différence avait été proclamé au plus haut niveau de l'État dans les années 80. On peut donc, comme le fait la France, comme le fait régulièrement la France, en tout cas ses gouvernements successifs, se montrer un ardent défenseur du multilinguisme à l'échelle internationale et refuser, par exemple, de signer la Charte européenne pour la protection des langues régionales et minoritaires. On peut se montrer à l'échelle internationale en faveur du dialogue interculturel et veiller par ailleurs jalousement à l'intégrité, à l'inaliénabilité des collections des collections muséales, constituées pourtant, on le sait, en partie par la prédation coloniale. Donc il y a une forme de double standard, de double discours hein, qui caractérise dans ce domaine comme dans bien d'autres la position de l'État français en matière donc, de droit culturel. Une dernière question, je finirai par là, parce que je vois que le temps passe, c'est la question que j'abordais d'ailleurs déjà d'une certaine façon, de savoir si les droits culturels sont des droits collectifs ou des droits individuels. Ici se joue un enjeu politique majeur, dans la mesure où les personnes, oui, où les personnes qui sont réticentes par rapport à cette notion des droits culturels, le sont généralement parce qu'elles soupçonnent ou elles craignent de voir des pratiques communautaristes qui découleraient d'une vision collective des droits culturels mettre en péril l'unité culturelle de la nation, de la République. Autrement dit, c'est la crainte de voir des droits collectifs prendre le dessus sur les droits individuels. Or, dans le cadre français, dans le cadre de la République française, on reconnaît des droits individuels, on ne reconnaît pas des droits collectifs. La déclaration de Fribourg, que j'ai mentionnée tout à l'heure, déclaration de 2007, fait office de synthèse à cet égard, puisqu'elle conçoit les droits culturels à la fois comme des droits collectifs et des droits individuels. La formulation adoptée dans le texte est la suivante, hein, toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit de pratiquer, etc., etc. Cette vision qui associe donc collectif et individuel s'est également imposée au sein des Nations Unies. Je pense notamment à la définition que propose Farida Shaed, qui est une sociologue pakistanaise et qui est experte et consultante indépendante auprès de l'ONU dans le domaine des droits culturels. Shaed, ça s'écrit SHAH2ED. Pour elle, les droits culturels sont des droits, je la cite, qui protègent les droits de chacun, individuellement et collectivement, ainsi que les droits de groupes de personnes de développer et d'exprimer leur humanité, leur vision du monde et la signification qu'ils donnent à leur existence et à leur épanouissement par l'intermédiaire, entre autres, de valeurs, de croyances, de convictions, de langues, de connaissances, d'expressions artistiques, d'institutions et des modes de vie. Alors, les droits culturels, ce n'est donc pas dans cette interprétation seulement le droit d'accéder à la culture, ni même de participer à la vie culturelle ou de recueillir les justes fruits de son travail intellectuel, ni même simplement de co-construire une politique culturelle, comme la possibilité en est parfois offerte aux artistes, notamment à l'échelon régional. Il s'agit d'une troisième génération de droits, droit à la différence des minorités, des migrants, des peuples autochtones, droit de pratiquer une religion ou une langue qui ne sont pas celles de la majorité, droit de préserver un certain nombre de coutumes et de traditions qui peuvent heurter les convictions du groupe majoritaire. Droit à la dignité, comme on le résume souvent. On peut évidemment, et il convient même de le faire, d'en dénoncer les dérives potentielles, les excès possibles, mais auparavant, il faut, je pense, reconnaître le bien fondé initial de cette troisième génération de droits, la nécessité de reconnaître, de défendre ce droit à la différence, que nie, pour de bonnes raisons parfois, mais aussi souvent de mauvaises raisons, tous ceux qui restent prisonniers d'un grand un et d'un grand même, pour reprendre les termes utilisés par le journaliste Edwy Plenel. Les migrants, les minorités linguistiques ou religieuses, les peuples autochtones ont été et restent maltraités dans beaucoup de pays, y compris occidentaux, qui se sont pensés comme homogènes sur le plan ethnique et culturel, et qui le sont pourtant, on le sait, de moins en moins. Reconnaître l'existence de droits culturels participe en ce sens de la mise en conformité du droit avec la réalité sociale de nos pays. En quoi consiste, par exemple aussi, enfin, en quoi consiste par ailleurs une politique multiculturaliste, même si le terme n'a plus bonne presse aujourd'hui. Ça participe donc de la mise en conformité du droit avec cette réalité multiculturelle, cette pluralité culturelle que connaissent nos pays, et c'est en même temps participer à la construction d'une société plus juste et plus inclusive. Entendre la parole de ces groupes et de ces individus, prendre en compte leur point de vue, les impliquer dans des politiques qui les touchent, me semble aller dans le bon sens. Ça n'empêche pas, effectivement, de rester vigilant par rapport à un dévoiement de cette revendication des droits culturels. Il est vrai que, lié à une quête parfois excessive des origines, de l'authenticité pure, d'une identité univoque, la proclamation des droits culturels peut aussi conduire au rejet de toute forme d'échange, de compromis ou d'ouverture à l'autre. Peut conduire à un processus d'essentialisation de la différence qui peut rejeter toute forme de métissage, de créolisation ou de transaction culturelle. Ça peut conduire effectivement à l'abandon du souci du commun pour la préservation de particularismes parfois contestables, mais présentés comme incontestables, à la rupture avec le pacte social ou national au profit d'un communautarisme qui dresse des murs au lieu de construire des ponts. Si les droits culturels, tels qu'on les conçoit dorénavant, notamment depuis la déclaration de Fribourg de 2007, sont des droits attachés à la personne, considérés isolément ou en tant que membres d'un groupe social, ils peuvent entrer en conflit avec la culture nationale ou du groupe majoritaire. Dans la notion de droit culturel repose l'idée que ces droits donc peuvent entrer en conflit direct avec d'autres droits humains, par exemple le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, le droit des enfants à recevoir une éducation. Ce conflit des droits ou des normes juridiques, on le voit à l'œuvre dans l'écart qui sépare certaines chartes régionales des droits de l'homme, par exemple la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ou la charte arabe des droits de l'homme, de la Déclaration universelle de 1948 et ses prolongements. Donc le conflit des droits, c'est aussi une réalité qui est posée par cette notion des droits culturels à l'échelle internationale. Je ne vais pas détailler ce point, ni non plus détailler celui que j'avais prévu de faire sur l'application de cette notion de droit culturel à l'échelle régionale ou locale. Je vais en rester là donc pour cet enregistrement qui est déjà un peu long. Je vais quand même donc mettre bien sûr la présentation PowerPoint sur l'ENT et sur mon blog. Je mettrai également quelques documents. Je pense notamment mettre le document d'accompagnement du colloque de 2019. Et puis l'article de Guy Saez également, que j'avais mentionné, qui me semble offrir aussi une bonne synthèse sur cette question des rapports entre droit culturel, démocratisation et démocratie culturelle. Voilà, j'arrête là donc cet enregistrement, cette séance 10 du cours sur institutions et politique culturelle, et donc j'arrête là pour cette année ce cours sur les institutions et politique culturelle en France. J'espère qu'il vous a intéressé, que ce soit les séances qu'on a pu faire ensemble à l'université ou que ce soit les séances que j'ai pu poster ici. Je vous souhaite donc de bonnes vacances puisque nous sommes officiellement en vacances cette semaine. Je vous retrouverai donc bientôt puisque je vais déposer des sujets d'examen sur l'ENT. À cet égard, l'une de vos camarades m'a signalé une erreur que j'avais commise dans les dates de dépôt et de rendu. Donc, je vais préciser tout ça. Je vais revenir aux premières dates que j'avais indiquées dans un premier mail, mais que je n'avais pas en tête quand j'ai envoyé le deuxième. Et donc, je vais repréciser tout cela dans les messages que je vais envoyer donc aujourd'hui, lundi 6 avril. Voilà, encore une fois, bonnes vacances, bon courage pour ce confinement qui perdure encore pendant quelques semaines sans doute. Et je vous souhaite donc une bonne fin d'année universitaire malgré tout. Au revoir.